Attention, bah non, on parle français quand même entre nous. Et je pense que si on regarde la langue française, comme d'ailleurs lorsqu'on regarde les populations en général à travers le monde, je pense que l'enrichissement de langue par d'autres mots apportés d'autres langues, on le retrouve partout. Partout, et que ça aussi c'est une évolution naturelle. Mais ce qui me fait marrer quand tu parlais tout à l'heure de CNews Pascal Pro, c'est que évidemment eux ils sont dans un sens réactionnaire, y compris celui-ci, la défense de la langue, ils sont autant contre les envahisseurs étrangers qui vont remplacer la population française que contre l'anglicisme qui va dénaturer la langue française et faire perdre toute identité à la langue et la culture française, que tout en disant ça, ils sont sur une chaîne de télé qui s'appelle CNews.
Ouais, c'est vrai que c'est drôle.
et je trouve ça pas mal. Voilà. Il est 12h55.
Donc on rappelle que...
Dernier mot sur le jeudi, jeudi 7 décembre à 19h.
Jeudi 7 décembre à 19h, donc le groupe Libertaires d'Ivry, à savoir nous, on projette un film de Maurice Pialat qui s'appelle « Passe ton bac d'abord », qui date de 78, qui parle du quotidien de plusieurs jeunes, d'un groupe de jeunes du Nord, de Lens, très exactement, et qui se demande ce qu'ils vont devenir en tant que fils de prolo après le bac. Et en fait, le rôle de la plupart, je crois, sauf à une exception près, des jeunes en question, c'est les jeunes jouent leur propre rôle. Et on ne sait pas du tout, j'ai pas trouvé trace d'eux, pourtant on voit leur véritable nom dans le casting. Ils jouent leur propre rôle, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est un peu comme pour les Lascars du LEP électronique, il y a beaucoup de points communs, à part qu'il n'y a pas à proprement parler un discours politique comme les Lascars. Mais enfin, sur une grande partie du fond, à savoir quel destin, enfin quand tu refuses ton destin social... Quelle chance tu as, quoi, finalement. Et le film est très, très bon. Je trouve, moi, c'est un des films qui m'a le plus bouleversé. Et en effet, donc, la discussion après portera sur savoir qu'est-ce qui a changé depuis 78 par rapport aux problématiques qu'il peut y avoir dans le film sur la fatalité, entre guillemets, qu'il peut y avoir quand tu es d'une certaine origine sociale comme ça. Et donc, le surtitre, c'est « Le chômage, c'est la misère, le travail, c'est l'exploitation ». Donc autant dire qu'on n'espère pas pour eux qu'ils trouvent un bon job bien payé, mais comme ils ont l'air d'avoir envie de vivre, un peu comme les Lascars, un peu beaucoup, eh bien on leur souhaite simplement d'avoir réussi, mais c'est pas forcément gagné, loin de là. Voilà, donc ça s'appelle Passe ton bac d'abord de Pialat, c'est jeudi prochain à partir de 19h, c'est ça,
voilà,
à la librairie du Monde Libertaire.
Donc au 145 rue Hamelot.
145 rue Hamelot, métro, Oberkampf, République, Fille du Calvaire.
Voilà, c'en est fini pour lundi matin. On vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site anarchiste.info, streaming, podcast et toutes les émissions de lundi matin qui sont disponibles bien évidemment sur le site radio-libertaire.org. Vous retrouvez donc Radio Libertaire et aussi le moyen de soutenir la station. Voilà, au revoir, à la semaine prochaine, et on retrouve les Pogs. À bientôt. I like to walk in the summer breeze down Darling Road by the dead old trees. I drink with my friends the Hammersmith Broadway, the dirty, delightful old drunken old days. And the winter came down and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you'd spend all your time. La 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 la. Turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down and I can't stand the chill. I can't stand the streets around Christmas time. I've borrowed to the nation and I haven't got a penny to wander the dark streets of London.
gave me CT and they drugged up psychos with death in their eyes. Now all of this really means nothing to me. Now the winter comes down, I can't stand the chill. It comes to the streets around Christmas time. I'm burnt to the nation, I haven't got a penny to wander the dark streets of London. Drugged up psychos with death in their eyes. And now all of this really means nothing to me. Now the winter comes down and I can't stand the chill. The colours to the streets are at Christmas time. I'm buggered to the nation, I haven't got a penny to wander the dark streets of London. To wander the dark streets of London. To wander the dark streets of London. Colours to the top of the mast, and for Greenland sailed away, brave boys, and for Greenland sailed away. The lookout in the cross trees he stood, his spyglass in his hands. There's a whale, and a wild fish he cries, and he blows at every span, brave boys, and he blows at every span. The captain stood on the quarter deck, the ice was in his eye. Overhaul, let your jib sheets fall, and go put your boats to sea, brave boys, and go put your boats to sea. The harbour struck and the line paid out with a single flourish of his tail. He capsized our boat and we lost five men.
السلام كل خطه معروض الاحتلال ما يريد استسلام. ليه انا اللي ما إله حرية لأني أنا رافض إني أعيش بعبودية
وين ما
معهم صرنا ولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج عاطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المطرق هو النشاطين بس بتبهرج الكلام كلهم مدين تخرج بتعرج الأوطان وإحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة ولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية
وما بشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية وما بشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية
انا بتسعى عيش هالكبير وانا بديش اموت عاجرب وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايدي مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاء كمان مش صلاة وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية ربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها بتسلم من امها الهنود الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
حتى الشمش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos émissions sur notre blog carapatage.noblogs.org et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @carapatage. Alors voilà, on a décidé de faire une émission sur les prisonniers prisonnières et la guerre en Ukraine. Cette émission, on l'a fait à partir de notre situation en étant ici. Avec nos ordinateurs et nos quelques rencontres qu'on a fait. Donc c'est une compilation surtout avec des sources francophones et anglophones et pas trop de textes ou d'infos de sources russophones ou en ukrainien. D'ailleurs, si vous avez envie de nous compléter, de nous faire des retours, n'hésitez pas à nous écrire aux différentes adresses qu'on vous a données, carapatage@riseup.net et à l'adresse postale. Il y a Pitou qui va nous introduire un petit peu l'émission.
Ouais, je voulais surtout présenter un peu la démarche de l'émission. Et au départ, ça part d'une réflexion sur la guerre, puis ensuite les prisons en temps de guerre. Alors, la guerre comme celle en cours en Ukraine, c'est celle des puissants qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire. Et comme à chaque fois que les puissances font la guerre entre eux, c'est au prix de nombreuses victimes, parmi toutes celles qu'ils écrasent déjà en temps de paix, chacun de leur côté, ou ensemble avec des intérêts communs. Alors, en Ukraine, déjà fin mars, début avril, plusieurs estimations comptabilisaient déjà plus de 15 000 morts civils et militaires, russes et ukrainiens. Et puis à certains endroits, la mort, les viols, les tortures se sont imposées dans la vie quotidienne. Alors, cette extrême violence, c'est le reflet d'un contexte où l'arbitraire de ceux qui font régner l'ordre, que ce soit les militaires, les flics ou les matons, est de plus en plus fort. Et dans ce contexte, on avait envie de parler de celles qui vivaient déjà avant la guerre une autre forme de violence perpétrée par l'État, à savoir l'enfermement. Avec cette question en tête, qu'est-ce que vivre la guerre coincée entre quatre murs d'une prison ? Donc d'une part, la violence de la guerre s'ajoute à celle de l'isolement, et d'autre part, le chaos qu'elle suscite est parfois propice à des évasions. On abordera donc ces points dans une première partie avec Pile. Et puis dans un second temps, on s'intéressera à la façon dont les États répriment et enferment selon les enjeux spécifiques de leur guerre, toujours en partant du contexte actuel en Ukraine. Alors, plus précisément, on s'intéressera à comment la prison devient un outil pour enfermer les adversaires de la nation, soit parce qu'ils sont des soldats russes, des déserteurs ou des désignés collaborateurs. Et on verra comment la prison est une pièce d'un ensemble répressif large visant à préserver l'unité nationale. Ça, c'est plutôt Avril qui nous en dira un peu plus sur le sujet. Et puis, pour finir, on évoquera, en partie moi en tout cas, le rôle des prisons devant la nécessité pour les autorités ukrainiennes de maintenir l'ordre social, en particulier face aux pillages de masse qui ont lieu depuis le début de la guerre. Alors d'un côté, le chaos semble faciliter la tâche aux voleurs-voleuses. De l'autre, la guerre, en faisant augmenter les prix, impose le vol comme seule solution de survie pour les pauvres. Voilà pour le plan de cette émission. Mais avant toute chose, Pile va nous faire une petite description des prisons en Ukraine telles qu'elles fonctionnaient avant la guerre.
Une petite description, c'est ça. En Ukraine, la peine de mort, elle a été abolie en l'an 2000. Et a priori, alors ça c'est un peu compliqué parce que disons que les régions de la Crimée du Donbass sont des zones autour de la région de Donetsk. Excusez-moi si je prononce mal, hein. Je vais mal prononcer plusieurs villes sûrement, désolé. Et de Lugansk qui sont pas sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Sont pas forcément prises en compte. Du coup, on compte entre 110 et 140 prisons, dont deux prisons pour mineurs et un peu plus de 4 centres de rétention. Il y a environ, c'est ça par exemple, entre 48 000 et 60 000 détenus incarcérés. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Très très peu de mineurs de plus de 16 ans qui sont en prison. Je me suis un petit peu perdue. Les conditions un peu dans les prisons en Ukraine avant la guerre, et sûrement aussi maintenant, c'est que il y a très peu de matériel dans les cellules, etc. Il y a très peu de matériel aussi, par exemple, pour l'accès pour se laver, à l'hygiène, etc. Donc, les personnes doivent souvent faire la queue devant des lavabos, etc. Il y a une discipline assez importante, comme le fait de jamais pouvoir s'asseoir sur le lit en journée, etc. Pas d'électricité dans la journée dans les bâtiments. Les témoignages décrivent une nourriture dégueulasse. Et il y a aussi une trentaine de ces prisons qui sont des centres de détention provisoire, où là, les conditions semblent encore plus difficiles, où les gens se retrouvent parfois une vingtaine dans une même cellule, comme par exemple dans le CISO de Kiev. Et pourtant, il faut dire que la plupart des prisons qui ont été construites pendant que la zone ukrainienne était alors l'URSS, donc voilà, ces prisons datent de ce moment-là. Il y a plus de 89 000 places et pourtant, il y a moins de détenus incarcérés que le nombre de places. Ce qui n'empêche pas la surpopulation dans les prisons. Voilà. Ce qu'on peut un peu trouver comme information aussi, c'est qu'il y a d'autres lieux d'enfermement qui, depuis 2014, sont des lieux qui ont été convertis en prison secrète, avec de la torture, et qui pour certains sont décrits comme un mélange entre la prison, l'hôpital psy et l'armée, où les nombreuses cellules sont filmées H24. Ça, c'est par exemple pour les régions du Donetsk et de Lugansk, où les pratiques sont assez semblables à celles qui peuvent avoir lieu dans des prisons en Russie. Le fait d'être filmé, par exemple, H24. Aussi que les scènes de torture soient filmées, par exemple. Mais ces prisons secrètes et ces actes de torture dans ces prisons, voilà, ont aussi eu lieu dans des locaux des services de sécurité d'Ukraine, par exemple, au nord de l'Ukraine. Donc ça semble être des pratiques qui ont existé de par des deux parties de voilà depuis de, dans la guerre quoi. Et pour parler un petit peu aussi de la situation dans les centres de rétention avant avant l'invasion russe, ils sont surpeuplés, la législation est assez floue sur donc les personnes ne peuvent pas rester plus de 6 mois normalement enfermées, mais la législation n'est pas très claire parce qu'il y a aussi des centres de vagabondage qui existent et parfois du coup les étrangers, enfin les personnes qui voilà sont considérées comme n'ayant pas les bons papiers en Ukraine sont aussi enfermées dans ces centres de vagabondage où là il n'y a pas de législation très claire. Il y a pas de respect. Enfin disons que c'est très difficile d'avoir accès aux droits d'asile quand on est enfermé, etc. Et voilà, ça c'était un petit peu pour avoir un petit aperçu de un peu comment ça se passait avant l'invasion russe. Et voilà, je pense qu'on va y revenir après en donnant un peu plus de détails et peut-être en faisant référence au passé. Voilà. Alors, on va revenir un peu à essayer d'imaginer et de faire parler quelques témoignages de ce que c'est les conditions d'enfermement en temps de guerre, ce que c'est vivre la guerre coincée entre quatre murs, avec ce que ça implique, les bombardements, etc., l'accès aux besoins essentiels, etc., quand on est en prison. Ça pose par exemple la question d'être abrité s'il y a des bombardements, ce qui semble peu le cas dans les prisons et dans les centres de rétention. On n'en sait pas grand-chose, on reparlera un peu des exemples des centres de rétention ensuite, mais on a trouvé un témoignage sur Prison Insider qui dit que voilà, donc il y a eu une dans la région de Vinnytsia au centre du pays, il y a eu des bombardements et des missiles ont fait une vingtaine de victimes civiles, des morts et des blessés. Donc voilà, les bombes ont été entre autres larguées sur une prison et en ont détruit une partie de l'enceinte. Donc ça a permis à des prisonniers de s'évader. Et a priori, ce genre de situation se sont retrouvées dans d'autres régions d'Ukraine. Mais on n'a pas de témoignages précis sur d'autres prisons. Mais a priori, par contre, dans les prisons en Ukraine, et ça avant la guerre aussi, il y a pas mal de téléphones à l'intérieur, voilà, c'est pas légal, mais il y en a pas mal à l'intérieur. Et du coup, ce qui peut permettre de faciliter l'accès à l'information pour les prisonniers, prisonnières, pour avoir des infos sur ce qui se passe sur la guerre en temps réel, mais ce qui ne leur permet pas pour autant de s'abriter ou de s'enfuir ou de s'échapper, quoi. L'accès. En fait, on n'a pas réussi à savoir s'il y avait dans quelles conditions les proches pouvaient faire des visites, qu'est-ce que ça impliquait que beaucoup de personnes aient fui la guerre et du coup maintenant sont peut-être loin de leurs personnes proches qui enfermaient à l'intérieur, quoi. On n'a pas non plus réussi à savoir s'il y avait des solidarités depuis l'extérieur envers les prisonnières qui se mettaient en place. Mais ce qu'on imagine, c'est qu'il y a pas mal de pénurie, que ce soit de nourriture, mais aussi d'accès aux soins, à l'eau, à l'électricité. Il y a des zones où l'eau a été coupée, par exemple, où l'électricité était réduite, et que ça a dû impliquer forcément des restrictions à l'intérieur aussi, quoi. Ce qu'on a réussi à savoir, c'est que l'administration pénitentiaire ukrainienne a militarisé le système pénitentiaire. Donc les agents, a priori, dans plusieurs prisons, sont maintenant équipés d'armes à feu. Ce qui, a priori, est le cas genre, dans les situations d'urgence. Donc ça, on imagine aussi que... Enfin, voilà. Et pour ce qui est un peu de... du contrôle des prisons comme un enjeu de guerre, avec dans les territoires qui sont conquis par l'armée russe de manière temporaire ou disons plus ou moins pérenne. À la mi-mars, la paix ukrainienne disait avoir perdu le contrôle de 33 prisons sur 110. Mais en fait, il pourrait y en avoir plus. C'est pas évident forcément de le savoir. Mais par exemple, ce qui a été fait, ce qu'on a pu savoir dans d'une ville du sud-est du pays, près de la Crimée, que une fois que c'était l'administration, enfin l'armée russe qui était dans la zone, qui menait des enquêtes sur la situation dans les prisons dans chaque établissement et essayer de voir s'ils pouvaient utiliser les prisons à leur fin pour contrôler la population locale, qui par exemple serait contre l'occupation russe. Et du coup, avec des services secrets russes qui essayent d'analyser les infos pour aussi identifier genre des personnes ukrainiennes qui seraient susceptibles de rejoindre leur rang.
T'en sais plus sur comment ils menaient ces enquêtes ?
Non, pas du tout. Comment ils les menaient ? Pas du tout. Non, pas du tout.
Ouais.
Voilà, je dirais. Non, parce que j'essayais de voir s'il y avait un peu plus d'informations, mais non, pas plus. Et ce qu'on sait pas trop aussi, c'est comment se fait la transition entre les Russes et les Ukrainiens. En tout cas, je sais plus où j'ai trouvé cette information, mais en général, des fois, quand il y a eu des bombardements, en gros, les matons ont fui, sont partis en courant, etc., et ont laissé la prison, qui a sûrement été reprise par par l'armée russe. Mais on sait aussi, et du coup cette information j'avais du mal à la comprendre, mais que des matons qui n'auraient pas voulu servir l'armée russe ont été violentés, torturés aussi. Voilà. Ça c'est une des informations un peu sur la transition, comment elle se fait.
Il y avait eu une... Enfin, je fais un peu un retour en arrière, mais peut-être tu en sais plus, mais en 2014, il y avait eu l'histoire aussi d'une évasion dans un village, je sais plus, je pourrais pas me rappeler du nom.
C'était près de Donetsk, non ?
Ok. En tout cas, où la tôle avait été en partie détruite par des bombardements, où des prisonniers se sont évadés, certains sont fait tirer dessus, dans mon souvenir, et d'autres où la plupart presque se sont ensuite fait rattraper, mais parce que à la fois ils fuyaient la prison et fuyaient la guerre en même temps, quoi. Enfin, je sais pas comment, ils fuyaient aussi les bombardements, quoi.
Ouais, en fait, voilà ce que j'ai retrouvé. Du coup, c'était pendant dans un village Tchornoukino. Le personnel a fui. Ce qui là semble pas être toujours le cas là dans les prisons qui ont été prises par l'armée russe, mais ils ont fui et les prisonniers sont évadés, et enfin dont ceux qui étaient malades, etc., qui pouvaient pas forcément se déplacer facilement, et il y en a aussi qui ont été tués par l'armée, mais aussi certains se sont retrouvés dans les champs de mines autour et donc ils sont morts ou ont été blessés par les mines, et il y en a qui ont été capturés par les Russes et envoyés se battre de leur côté, et d'autres ont réussi à rejoindre les points de contrôle de l'armée ukrainienne et se sont fait emprisonner dans des territoires ukrainiens. Donc ce qui veut dire aussi que il n'y a pas de procédure genre d'évacuation. Enfin, a priori, ça n'existe pas, quoi. C'est pas du tout pris en compte et ça n'existe pas, quoi. Mais oui, du coup, ça, c'était...
Juste ça. Enfin, je fais une parenthèse, mais parce que ça montre un peu aussi, quelque part, j'en sais rien, moi, les choix qu'ont fait les gens, mais à quel point... tu t'échappes et en même temps... où est-ce que tu te trouves le plus en sécurité ? Est-ce que c'est au milieu d'un champ de mine ou est-ce que c'est en allant au checkpoint ? Enfin, je sais pas à quel point les gens ont fait ce choix finalement d'aller quelque part jusqu'au checkpoint, plutôt peut-être pour se protéger de la guerre, et voilà, et tant pis, se faire emprisonner, quoi. Enfin, je sais pas.
Ben, après, il y a du coup un autre choix, entre guillemets, qui est aussi, voilà, c'est la guerre comme possibilité pour sortir. Et du coup, les autorités ukrainiennes ont proposé de libérer les personnes détenues qui disposaient d'une formation militaire ou qui ont déjà combattu les Russes dans l'est du pays et qui vont être qui ont été environ 400 personnes qui ont été libérées pour lutter contre l'armée russe. Et du coup, ça s'est aussi passé dans les centres de rétention où ça a été proposé des libérations en échange de travailler, de s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Et du coup, je voulais parler un petit peu plus des centres de rétention. Il y en aurait, voilà, donc il y en aurait à peu près entre 4 et 6. Et voilà, ces centres d'accueil pour vagabonds. Et il y en a un qui a été vidé près de la frontière biélorusse à Tcherniv, qui a été vidé au début en février. C'est des régions où il y a eu pas mal d'explosions et d'attaques. Et celui de Mykolaiv au sud de l'Ukraine, aussi vers Odessa. Celui-là, il reste des personnes à l'intérieur, mais on n'en sait pas plus. Par contre, celui dans le canton de vers Voline, donc près de Loutsk, c'est hyper dur à le prononcer, qui était une ancienne caserne militaire qui a été transformée en centre de rétention en 2007 avec des fonds de l'Union européenne et qui d'ailleurs est en partie retransformée en caserne militaire depuis le début de la guerre, donc une cible quand même assez idéale pour les bombardements, etc. Il n'y a pas du tout de cave pour se protéger, comme je disais auparavant. Et apparemment, quand il y a eu des alertes, les soldats, eux, ont fui le bâtiment, mais les personnes au CRA sont restées enfermées. Il y en aurait d'ailleurs entre une centaine et une cinquantaine depuis début mars, avec des gens d'une quinzaine de nationalités différentes. Et à l'intérieur, les gens ont fait une manifestation pour demander leur libération, puisque la ville était bombardée, et apparemment ça a été violemment réprimé par les gardiens. Du coup, il y a des personnes il y a certains pays qui rapatrient les personnes qui sont enfermées en centre de rétention, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine et qui voudraient demander l'asile en Ukraine. Aussi, par rapport à dans ce centre de rétention, donc les gardes ont aussi proposé, donc aux retenus, de rejoindre l'effort de guerre. Et a priori, aucune personne n'aurait accepté cette offre entre guillemets. Voilà. Et maintenant, Avril va nous parler un peu de qui est réprimé en temps de guerre.
Oui. Et je voulais commencer un peu par parler de gens qu'on voit beaucoup dans les articles qu'on peut lire et tout, qui sont les prisonniers de guerre. Et c'est assez difficile de... Enfin, c'est même... J'ai pas réussi à avoir des infos sur où ils sont enfermés. Et la seule info que j'ai pu trouver, c'est en revenant à une autre guerre, celle de Tchétchénie, où il y a un témoignage d'un prisonnier... qui était un prisonnier des Russes, qui disait qu'il a été enfermé pendant 6 ans dans le sous-sol d'un immeuble de la capitale de Grozny, qui était en ruine, comme à peu près toute la ville à ce moment-là. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, aucune idée, et j'imagine que c'est une info difficile à trouver. Par contre, du coup, les prisonniers de guerre, en revanche, on les voit beaucoup. Et ils servent beaucoup d'instruments de propagande pour les différents États. Et on a trouvé autant du côté ukrainien que du côté russe des mises en scène de témoignages dont on peut finalement pas trop savoir s'il faut le prendre pour argent comptant ou si c'est quelque chose qu'il aurait dicté. Et en tout cas, on voit à peu près à chaque fois la même chose, un appel à la désertion des autres, en disant que eux désertent, et de dire qu'ils sont bien traités, et voilà. Et ça, c'est autant d'un côté que d'un autre, et de la même manière, ils servent de monnaie d'échange. Il y a régulièrement des tractations, des échanges de prisonniers russes et ukrainiens, qui sont pas forcément, on dit prisonniers de guerre, c'est pas forcément des militaires, et assez souvent, une bonne partie de ces prisonniers sont des civils. Et du coup, de la même manière, c'est que on sait pas trop dans quel, ici ils sont dans des prisons qui sont déjà existantes, ou dans des nouvelles prisons, ou dans des bâtiments, comme je le racontais tout à l'heure, des bâtiments désaffectés, transformés pour l'occasion en prison. On n'en sait pas trop non plus sur les conditions de leur détention, sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est d'être prisonnier aux mains, entre les mains des militaires, de l'armée, ou pas, si ça se trouve. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de témoignages de gens qui sont enfermés enfermés seulement pour quelques jours, et qui sont globalement, mais je reviendrai plus tard un peu là-dessus, mais qui sont globalement, c'est des interrogatoires qui sont assez systématiques par les forces, les troupes russes dans les villes qu'elles occupent. Et du coup, il y a dans la question des gens qui sont réprimés au moment de la guerre, il y a ces personnes-là, les prisonniers de guerre, et il y a aussi les personnes qui respectent pas l'unité nationale, on pourrait dire, enfin qui contribuent pas à l'effort national de guerre. Et déjà, les deux pays en question, ils ont la conscription, ils ont le service militaire obligatoire, que si tu respectes pas, tu encours des peines de prison. Et en Ukraine, il y a eu, pendant cette guerre-là, il y a eu plusieurs extensions de cette loi qui vise à réprimer les déserteurs, les gens qui refuseraient de faire de rejoindre l'armée, de faire leur conscription et de participer à la guerre. Et du coup, au départ, déjà, ça peut monter assez haut en termes d'années de prison. Si, par exemple, si c'est en étant au sein d'un groupe organisé, si t'es plusieurs avec tes potes à essayer de ne pas faire cette conscription, bah, tu peux encourir une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Et il y a l'idée, enfin, du coup, il y a eu un projet de loi qui visait à étendre cette conscription aussi aux ressortissants ukrainiens à l'étranger, à qui on imposerait une peine de prison s'ils venaient pas se battre au pays dans un certain délai. Il y a un autre projet de loi qui prévoyait des amendes et des peines de 1 à 3 ans de prison pour les conscrits en cas de franchissement illégal de la frontière, s'ils essayaient de se barrer du pays. Et le 10 avril, il y a des chiffres qui sont sortis, et c'est les gardes frontières, ils annonçaient qu'il y avait près de 2200 Ukrainiens en âge de combattre qui avaient été arrêtés en essayant de quitter le pays.
Sans compter ceux qui sont partis en payant des pots de vin, non, aux gardes frontières. Enfin, je sais qu'en tout cas, dans des lettres qui avaient été publiées de gens d'une communauté longomaï qui vivent à la frontière, je crois, entre pas loin de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, parler de ces pratiques-là. Bon, après, ça montait, il me semble, au moins un millier d'euros, et sûrement beaucoup plus pour des hommes en âge de combattre qui voulaient passer la frontière.
Et Je voulais en profiter pour parler de la situation particulière des personnes trans qui, du coup, parce que du coup, l'enrôlement concerne les hommes. Enfin, après, c'est voilà, je ne sais plus entre quel âge et quel âge. Et du coup, pour cette personne-là, elles sont forcément aussi considérées comme hommes par l'État et donc doivent participer aussi, se faire être enrôlées dans l'armée ukrainienne. Et même celles qui ont effectué un changement à l'état civil, dans les fichiers, a priori, apparemment, de l'armée, elles restent considérées comme hommes et donc se font aussi enrôler, même si sur leur carte d'identité, elles sont quand même considérées par l'État comme femmes, mais pas au niveau des fichiers d'enrôlement de l'armée, quoi.
Et toujours sur l'armée, et un truc... Je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais en tout cas, il était question que en Ukraine, la conscription soit supprimée avant 2014. Ce qui s'est passé, Place Maïden, a remis en cause un peu ce truc-là. Ils ont un peu le pouvoir a un peu. Je ne sais pas de quelle manière. En tout cas, ça a été annulé l'idée de supprimer ce truc-là et ça a même été renforcé finalement au fur et à mesure des dernières années. Et du coup, en Russie, il y a aussi la conscription et au début, il était dit que c'était juste une armée régulière qui allait en territoire ukrainien, mais il s'avère qu'en fait, c'est beaucoup de conscrits. Et en tout cas, il y a plusieurs témoignages qui disent que ils étaient envoyés en exercice. Enfin, qu'il y a tout un récit qui a raconté un espèce de mythe, quoi, qui se crée autour de leurs opérations.
Tu veux dire que les gens n'étaient pas forcément prévenus qu'ils allaient aller en Ukraine ?
Non, ils pensaient aller faire des exercices militaires puis se retrouver dans une guerre.
J'imagine que maintenant c'est moins le cas.
Non, plus vraiment. Et en Russie, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une forte répression des manifestations qui ont eu lieu contre la guerre. Dès les premiers jours, il y a eu des très grosses manifestations en Russie qui étaient assez impressionnantes et qui ont été très sévèrement, assez massivement réprimées. Le jour même, le 24 février, il y a eu plus de 1700 arrestations dans une cinquantaine de villes russes. Et quand on dit arrestation, ça peut vouloir dire jusqu'à 15 jours de prison, de détention. Et entre le 24 février et le 7 avril, il y a plus de 15 000 arrestations sur le territoire russe. Il y a aussi, eu beaucoup de tags et de stickers contre la guerre qui sont un peu répandus dans certaines villes. Et il y a au moins une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre-là. Et de son côté aussi, la Russie, dans ce contexte de guerre, sort toute une série de lois, notamment une qui a été votée le 4 mars et qui punit d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 15 ans, ce qu'ils appellent la diffusion de fausses informations sur l'emploi des forces armées russes. Et qui en gros correspond à tout discours qui se distancierait un peu de celui du Kremlin. Mais par exemple, utiliser le mot guerre plutôt qu'opération spéciale, ça rentre dans ce cadre-là, pour donner une idée. Et cette loi, elle arrive là, mais elle s'inscrit dans un contexte plus large que la guerre. Et la guerre, elle peut servir. Je me dis que dans ce cas-là, elle peut aussi servir d'accélérateur pour le pouvoir que c'est un contexte un peu spécial, comme les états d'urgence et tout ça. Et qu'il y avait déjà un processus qui existait où, en 2019, ils avaient testé de mettre en place un réseau internet ou intranet, justement, qui couperait le pays d'internet. Et que déjà, dans ce projet, il y avait une loi pour un internet sûr et durable qui prévoyait à peu près les mêmes choses. Et sinon, du coup, on a parlé de la répression en Ukraine et en Russie, et il y a aussi cette zone un peu plus grise qui est les territoires conquis par la Russie, où notamment il y a le cas de Kherson, qui est une ville dans l'est de l'Ukraine, près de la Crimée, plutôt dans le sud, pas vraiment dans l'est, complètement dans le sud, où c'est une des premières villes qui a été occupé par l'armée russe le 2 mars. Et il y a eu une des fortes mobilisations des habitants de la ville, de pas mal de manifs. Et il y a eu plus de 400 personnes qui ont été arrêtées dans ces moments-là. Et le seul truc que j'ai pu trouver concrètement sur des gens qui ont été enfermés, c'est du coup ces personnes-là qui ont été enfermées dans un ancien centre de détention préventive qui a été rouvert pour l'occasion. Et après, la répression, elle joue aussi... Enfin, l'État ukrainien joue son rôle aussi et réprime bien les gens, mais peut-être Pitou, tu vas en parler un peu plus.
Mais on va peut-être écouter une petite musique avant, à moins que...
Si on veut. Oui.
Bah oui, oui. Tu parlais de Kherson, mais peut-être j'y reviendrai après. Mais il y avait pas mal de citations du maire de Kherson qui permettait de comprendre aussi comment... la répression qui jouait là-bas, et notamment puisqu'il y a eu des manifestations assez importantes dans cette ville. Et
contre l'invasion russe.
Oui. Alors, bon, on voulait aussi parler un peu de... Enfin, on se posait un peu la question en préparant cette émission de à quel point, pendant la guerre, et en particulier pendant cette guerre en Ukraine, la prison sert... à quel point elle sert toujours à maintenir l'ordre social et les dominations en cours, et en particulier là, les dominations de classe. Puisque, en partant de ce qui se passe en Ukraine, pas sur le front de guerre cette fois, mais en fait dans... dans les villes, dans les... En cherchant un peu, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de pillages dès le début de la guerre, mais à une échelle très importante, pas seulement dans les villes, enfin beaucoup dans les villes assiégées ou occupées, mais aussi dans toute l'Ukraine, sur tout le territoire. Donc effectivement, dès le 24 février, le début de l'invasion russe, le fait que les banques aient cessé de fonctionner et qu'il y ait eu une diminution drastique des stocks de marchandises, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à voler, quoi, à piller. Du coup, on a l'impression qu'à la fois le contexte chaotique produit par la guerre, il fait que d'une certaine manière les autorités sont moins promptes ou moins efficaces pour réprimer ou contrôler, et ça facilite un peu la tâche aux gens qui volent, quoi. Et dans le même temps, le contexte de guerre appauvrit encore plus les pauvres, et d'une certaine manière fait que le vol devient la seule solution pour survivre à la guerre, quoi.
Et donc, donc je parlais du contexte dès le 24 février avec les banques qui cessent de fonctionner, les marchandises dont les stocks diminuent, les prix qui commencent à augmenter. Alors au début, il y avait beaucoup de pillages dans des magasins, des petits magasins et grands magasins pour de la nourriture. Et puis en fait, après, ça c'est les pratiques se sont vachement répandues et diversifiées au fur et à mesure de la guerre. Je sais pas, il y a des habitations abandonnées qui se sont fait piller, des usines désertées qui ont commencé à se faire piller. Et alors, bien sûr, à la fois par des habitants et des soldats. Du coup, souvent, aujourd'hui, d'ailleurs, dans la presse, on ne parle des pillages que comme des exactions des soldats russes. Mais effectivement, il y avait des soldats russes et peut-être même sûrement des soldats ukrainiens qui sont mis à piller, mais aussi beaucoup des habitants des villes et des lieux en question, quoi. Je parlais des usines désertées, il y a aussi des stations de service, même des banques, des magasins d'électronique, des concessions automobiles. Voilà, ça s'est vachement répandu. Il y a des témoignages, un témoignage super intéressant qui a été publié sur un blog qui s'appelle Une autre guerre. Donc, c'est l'adresse exacte, c'est uneautreguerre.wordpress.com. Qui est en fait une série d'entretiens avec un étudiant ukrainien vivant en Ukraine et qui raconte un peu ce contexte-là, qui raconte un peu comment les gens se sont mis à voler ou voler déjà et on volait plus, quoi. Il raconte un peu ce qu'il a vu ou alors ce qu'il a entendu, ce qu'il a pu capter comme info. Il dit à la fois c'était des petits groupes qui se mettaient à piller ou des gens tout seuls. Et puis à côté de ça, il y avait aussi des plus grands groupes qui se sont mis à piller collectivement des grands magasins, surtout pour de la nourriture. Et il dit qu'il y a des dizaines de vidéos, de caméras de surveillance qui montrent un peu l'ampleur du phénomène, avec des images de gens qui attaquent les magasins, quoi. Et le constat qu'il fait aussi, et qu'on a pu voir dans plusieurs articles de journaux, c'est que visiblement l'État et les flics étaient débordés par la situation, au point que la plupart du temps, la répression des pillages était, dans certains cas, elle était le fait de la police, dans beaucoup de cas, c'était le fait de bons citoyens patriotes, ou les commerçants eux-mêmes qui se défendaient avec une arme, ou des militaires réservistes de la défense territoriale. Alors, je ne sais pas s'il faut faire un point. Enfin, la défense territoriale, c'est la force de réserve de l'armée ukrainienne, quoi. Dans lesquels on retrouve les bataillons ultranationalistes type Azov, mais aussi plein d'autres.
Les bataillons volontaires, quoi.
Ouais.
Les gens qui viennent volontairement combattre.
Ouais. Et du coup, cette répression auto-organisée, quoi, qui s'est répandue, elle s'est manifestée d'une manière quand même assez uniforme. À chaque fois, c'était les mêmes pratiques. En gros, il y a plein de vidéos qui montrent des gens qui se sont fait choper en allant chourer dans des magasins et qui ensuite se sont fait capturer et ligoter à des poteaux dans la rue, dans l'espace public, avec une espèce de pancarte indiquant pilleur, mais souvent maraudeur, ce qui a une connotation plus grave en ukrainien, parce que ça désigne pas seulement le fait de voler dans des magasins, mais de voler des particuliers. Par exemple, on dirait, l'équivalent serait peut-être cambrioleur, mais avec une connotation vachement plus forte en ukrainien. Ça parle en tout cas vraiment de piller autrui, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc les gens étaient ligotés, dans certains cas dénudés, frappés, la tête peinturlurée. Des humiliations et de la torture en public, quoi.
Filmé.
Et oui, et souvent, très souvent filmé. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur Internet et des articles qui les compilent. En tout cas, c'est pas une pratique. Enfin, le fait de ligoter à un poteau, c'est une. Bon, voilà, c'est pas un truc. C'est une pratique qui existait déjà. Alors, moi, je sais pas à quelle ampleur ou quoi. Enfin, si. S'il y a des endroits en Ukraine où, en fait, les gens ont l'habitude de faire ça parce que, je sais pas, ils ont l'habitude de faire sans les flics. En tout cas, déjà en 2014, il y avait des vidéos qui montraient comment un chef de douane avait été puni de cette manière-là, après avoir été accusé de corruption dans l'oblast de, enfin, dans la région de Transcarpathie. Donc en 2014, c'était le moment où il y a eu le Maïdan à Kiev, donc cette occupation émeutière de la place Maïdan à Kiev, et suite à comment dire au départ du chef d'État pro-russe quoi, et par la suite du coup le début de la guerre de Crimée et le début de l'occupation des territoires de Donetsk et Lugansk. Il y a un autre exemple aussi d'une femme, Irina Dovhan, qui avait été punie par des séparatistes pro-russes à Donetsk en août 2014, parce qu'elle soutenait l'armée ukrainienne, et elle aussi, elle avait été ligotée à un poteau, frappée, enfin, torturée, humiliée de la même manière. Alors voilà, il y a toutes ces... à la fois toutes ces punitions extrajudiciaires, ou je sais pas comment dire, enfin, c'est un peu... En tout cas, ces formes de punitions qui sont à la fois l'humiliation de la torture qui sont vachement répandues, et dans le même temps, il y a l'État qui essaye qui veut pas perdre le contrôle non plus, quoi. Enfin, qui essaye d'endiguer le phénomène à la fois. Enfin, moi j'en sais rien, j'ai pas envie de faire une analyse comme ça, mais j'imagine en tout cas à la fois pour contrôler ce phénomène de vol ultra répandu et reprendre le contrôle aussi sur la répression du vol en faisant des amendements du code pénal. Donc en fait, le 3 mars, le Parlement ukrainien a modifié le code pénal pour augmenter les peines de prison pour vol, spécifiquement en temps de guerre. Donc plus précisément, avec ces amendements, tout type de vol, enfin tout vol, quelle que soit la quantité volée, est désormais puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. Et quand il y a en plus une circonstance aggravante type, comme on dit, vol qualifié, enfin avec violence, pareil, quelle que soit la quantité volée, a priori, selon le code pénal, que ce soit un stylo ou un lingot d'or, tu peux être puni de 7 à 10 ans de prison. Enfin, je fais exprès d'exagérer, mais bon, c'est un peu ça que ça veut dire. Et donc, hors état de guerre, le code pénal prévoit ces peines uniquement pour ce qu'ils disent dans le code pénal, les vols à grande échelle, quoi. Et donc voilà, il y a ces amendements du code pénal comme une manière de réaffirmer l'état de droit avec ces lois pour réprimer et face à l'auto-organisation de la punition. Mais dans le même temps, il y a un tas d'exemples qui montrent que les autorités, que ce soit les autorités étatiques, mais aussi à des échelles plus locales, qui encouragent toutes ces formes de punition directes en dehors des institutions judiciaires, qui a priori n'ont pas l'air d'être en état de fonctionner correctement ou efficacement, et des formes de punition a priori bien plus simples à mettre en place que de faire un procès et d'emprisonner. Et donc sont, comme je disais, l'humiliation, la torture, voire des solutions plus radicales que sont la mort. Et comme par exemple le 27 février, l'État ukrainien, alors on n'a pas réussi à trouver une info plus précise, mais en tout cas dans le témoignage dont je parlais tout à l'heure qu'on trouve sur le blog Une Autre Guerre, la personne affirme que le 27 février, l'État ukrainien a annoncé à la télévision que les pillards pouvaient désormais être abattus à vue. Donc ça, c'est dès le 27 février, à savoir 3 jours après le début de l'invasion russe. Alors il y en a plein d'autres, des exemples. Il y a le 1er mars, le chef adjoint du département de la police de patrouille des routes, qui a publié sur Facebook des photos de gens attachés à des poteaux, en déclarant qu'il était inacceptable de voler en temps de guerre. Voilà, donc il approuve ce genre de punition et il l'encourage par Facebook. D'ailleurs, ensuite, son message a été relayé sur la page Facebook de la police nationale. Le 2 mars, c'est le maire de Poltava, une ville au nord-est, près de Kharkiv, qui a indiqué que voilà, des punitions sévères seraient autorisées pour les pillards, pour réprimer les pillards. Et fin février, il avait même averti que l'usage des armes était permis contre eux, sous la loi martiale, alors que, selon des ONG, a priori, c'est pas vrai, la loi martiale ne permet pas ça. Bon, si vous avez une information qui contredit ça, envoyez-la nous par mail, ou par courrier, si vous voulez. D'autres exemples, le 21 mars, c'est le conseiller du ministre de l'Intérieur qui a indiqué, je cite, « Je ne pense pas que ligoter exposé à un maraudeur soit considéré comme sauvage en période de guerre. » Il a aussi précisé que la police ne pouvait pas être partout actuellement et que ce type de châtiment était bien plus dissuasif pour les voleurs que la menace d'une sanction pénale. Donc là, on voit bien le truc de... Bon, en fait, c'est plus efficace. Et puis, il y a d'autres maires qui ont par ailleurs déclaré en fait, il fallait tuer les pilleurs, quoi. Sans avertissement préalable, du coup, il y a carrément le maire de Kiev, Vitali Klitschko, mais aussi d'autres maires de petites villes, de plus petites villes, comme les maires de Jitoville et de Aktyrka. Désolé pour la prononciation. Donc, tous ces exemples, ça montre un peu comment l'arbitraire est de plus en plus fort et prend le dessus sur... dans la façon de punir, quoi.
Et dans l'interview qu'on retrouve sur Prison Insider, là, c'est la personne qui est interviewée dit que la tendance est à la baisse de la population carcérale et uniquement en raison de la guerre. Du coup, c'est pas expliqué pourquoi plus précisément, mais du coup, on imagine que les tribunaux fonctionnent au ralenti, quoi. Comme le reste. De la société, quoi. Et des institutions.
Et la citation que tu avais faite du conseiller du ministre de l'Intérieur, elle est assez parlante du rapport un peu des institutions par rapport à ces punitions qui se font dans la rue, où à la fois, ils augmentent les peines de prison pour que ça redevienne plus dissuasif, ils veulent reprendre la main dessus, et en même temps, ils disent... Enfin, ils valident un peu ces pratiques-là.
Des pratiques qui sont, selon plusieurs témoignages, vachement approuvées aussi par plein de gens en Ukraine, quoi. Enfin, c'est ça aussi qui est flippant. Et il y a un article, je crois que c'est du Nouvel Obs, qui, comme ça, interview une personne qui se dit un passant dans la rue... Mais qui dit aussi texto, enfin qui fait aussi un témoignage comme quoi il peut pas y avoir de, c'est impossible de faire des procès. Alors je sais pas d'où il sort cette info, mais c'est impossible de faire des procès pour eux, les pilleurs tellement il y en a. Du coup, on est bien obligé de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre. Enfin, et apparemment il y a beaucoup de retours comme ça de la part des gens. C'est très peu remis en cause. Mis à part, j'imagine qu'il y a des gens qui le remettent en cause, heureusement. Ceux dont on capte un peu la voix, moi en tout cas, les seuls trucs que j'ai trouvé de gens qui s'opposent à ce genre de pratique, c'est un communiqué d'ONG, qu'une coalition d'ONG, dont une qui a l'air assez connue, qui s'appelle Zmina, qui sont des ONG de défense des droits de l'homme ukrainienne, mais qui du coup portent le discours de il faut le retour de l'état de droit, de la démocratie et de la justice, et donc qui à la fois demande à l'État de réprimer les lyncheurs et les lyncheuses, dans le même temps félicite l'État d'avoir fait des amendements pour augmenter les peines de prison pour les pilleurs, et valide vraiment ce truc que voler en temps de guerre, c'est bien plus grave et ça mérite effectivement un châtiment, puisque c'est quelque part, ils le disent pas comme ça, mais ça, c'est ça qui transparaît, c'est quelque part ça va contre l'effort collectif de guerre, et donc on en revient au truc de l'unité nationale, que indirectement en volant tu les flics ont autre chose à faire que de réprimer des pilleurs, puisqu'il y a la guerre. Quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi, l'idée.
Et d'ailleurs, quasi tous les exemples de vidéos qu'on pouvait voir, c'était pour des cas de pillage et tout, mais il y en a un qui est ressorti un peu... Enfin, il y en avait un exemple qui était une personne qui avait vendu de l'alcool alors que c'était interdit dans le cadre de la loi martiale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as parlé de la loi martiale un peu. Mais du coup, c'est une loi qui se met en place, c'est un état d'urgence qui se met en place au moment de la guerre, qui a déjà été mis en place. C'est la troisième fois depuis 2014 qu'ils le mettent en place. D'abord pendant les événements de la place insurrectionnelle, puis la guerre de Crimée qui a commencé par l'occupation de la place Maïdan. Puis en 2018, je sais plus quand, mais quand il y a des navires ukrainiens qui ont été bombardés par les Russes. Et là, du coup, c'est à nouveau, ils mettent en place la loi martiale qui dit que, entre autres, on n'a pas le droit de quitter le sol ukrainien. Un couvre-feu peut être mis en place à plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits à Mariupol, par exemple, il y a un couvre-feu qui s'étend de 20h à 6h.
Il y en a eu à Kiev à quelques moments.
Et de nombreux checkpoints militaires qui font des contrôles renforcés à tout le monde, globalement. Et ça permet aussi la saisie de propriétés soit qui appartiennent à l'État, soit qui sont réquisitionnées pour les besoins de l'État. Et ça permet aussi, entre autres, de limiter fortement les rassemblements publics et les manifestations.
Et je voulais juste revenir sur... désolé, je fais un retour en arrière sur les histoires de punition auto-organisées. Juste une petite précision. En Ukraine, c'est légal pour les citoyens de retenir et d'immobiliser des pillards potentiels avant l'arrivée de la police. Et d'ailleurs, alors moi, je n'ai pas d'éléments de comparaison avec d'autres États. D'ailleurs, en France, je ne sais pas ce que est autorisé ou pas. Mais enfin, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je n'ai pas eu le temps de creuser. Et si ça se trouve, c'est plus ou moins légal aussi, j'en sais rien. Mais bon, j'en doute quand même, mais je ne sais pas. Bref, peu importe. En tout cas, ces assauts-là dont je parlais, ces ONG, elles jouent là-dessus en disant les tentatives des communautés locales d'arrêter les criminels par elles-mêmes sont une décision compréhensible et justifiée, mais les auteurs doivent être immédiatement remis aux forces de l'ordre appropriées. Enfin bref, ça donne une idée un peu du discours que peuvent porter ces ONG. Bah, enfin, ouais, je sais pas, le discours de la répression démocratique, je sais pas comment dire. En tout cas, juste pour finir, moi, toutes les infos que j'ai trouvées, ou peut-être, je pourrais peut-être dire nous, j'ai l'impression, elles commencent à dater, j'ai l'impression. Enfin, il y a, et je sais pas, enfin, pareil, c'est juste pour répéter une espèce d'appel à info.
Oui, pas hésiter à, s'il y a des envies de retour, de nous compléter, d'actualiser certaines choses qu'on a dites. Et si vous avez voilà, d'autres choses, n'hésitez pas à nous écrire. Et du coup, j'en profite pour rappeler l'adresse mail carapatage@riseup.net et nous écrire à Carapatage 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Et ben du coup, on va peut-être se quitter. Donc vous pouvez voilà, réécouter toutes nos émissions sur notre blog carapatage.noblogs.org et sur Instagram @carapatage. On va terminer l'émission. On va continuer à exister entre temps en écoutant Les Joyeux Bouchers de Boris Vian et en vous souhaitant une bonne soirée, une pensée à toutes les personnes enfermées.
Courage à vous.
Bonne soirée.
À la prochaine.
Se C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent paner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Un piano, c'est tiède comme une femme. Un piano, ça tient les mains au chaud et ça tient chaud à l'âme. Un piano, c'est comme un catafalque, ça sent déjà l'encens. Un piano, c'est doux comme du talc. Et dedans dorment les musiciens, la tête penchée sur des blanches, comme un nid blotti dans les branches, la tête de Jean-Sébastien. Un piano, mais oui, c'est transportable, un piano. J'en ai un dans mon ventre, j'en ai dans mon cartable. Un piano, ça tremble comme un fanal au fond d'une vallée. Un piano, c'est long comme un canal. Et dedans se noient les musiciens, la tête penchée sur les noirs. Ils me racontent leur histoire, l'histoire de Jean-Sébastien. Un piano, c'est là comme un ami. Un piano, ça donne son silence, ça vous veille la nuit. Un piano, c'est lourd comme une armoire. Ça couvre la musique, un piano. Ça garde la mémoire. Et dedans rêvent les musiciens, la tête penchée sur les voix. Y'a pas besoin de jouer pour voir la tête de Jean-Sébastien. Au piano, je m'y assois souvent, sans toucher, sans toucher. Et j'attends, et j'attends. Qu'ils reviennent les musiciens, la tête penchée sur la vie. Qu'ils reviennent de souvenirs anciens, des doigts de Dinoubati.
c'est par mes mains flammes te dire le feu, le jour et la planète. C'est par toutes mes mains machette descendre en toi ta masonie. C'est chanter dans la nuit ouverte ta chanson d'étoile perdue. C'est toujours blessé, toujours nu, traverser des villes désertes. Aimer entre les glands et les toxins, c'est un arbre que j'ai planté. C'est par mes racines oubliées que je monte fou de ma faim. Aimer, c'est ce voyage de plein cœur, toujours sans carte, sans boussole. C'est au bout de toute parole, l'espace, l'espace et la douleur. C'est au bout de toute parole, l'espace, l'espace et la douleur, et la douleur.
Radio Libertaire 89.4.
Thank you. c'est la passe. Tu voudrais que ça débouche
sur quoi?
Me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Il me l'entendait tant et si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais.
Trabaja.
Travaille.
Trabaja, no te pienses.
Travaille, mon enfant.
Que sin dinero vivirás.
La vie sans argent, ça vaut pas le déplacement.
Junta el esfuerzo y el ahorro.
Gagne mes gardes, tes sous, fais ton trou. Et alors tu verras.
Abre tes pasos, ya verás.
La vie daignera te donner quelques moments de joie.
Como la vida te depara buenos momentos, te alzará.
Enfonce bien les petits,
los pobres,
les mesquins,
les mezquinos,
tous les cons qui se contentent de ce qu'ils ont.
Que no han sabido descollar.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à chaque fois, moi, j'oubliais. Dans la vie, c'est chacun pour sa peau. Et voilà toute l'histoire. Sortez gros, joue solo. Sinon, tu ne seras qu'un tocard. Un tocard. Vas-y fiston, mets le paxon. Toute la terre, le soleil et la mer appartiennent à ceux qui s'assoient sur leurs frères. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Il me l'ont tenté si bien rabâché qu'à la fin j'ai tout oublié. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Il me l'ont tenté si bien rabâché qu'à la fin j'ai tout oublié.
Il a olvidado siempre más.
Forever, façade fragile, petit bar, japonais gracile et gros lard.
En été, c'est l'ombre et cagnard, Baudelaire sombre et Mozart.
Poison, confiture, air marin, oiseau d'aventure, petit chien.
Rue Saint-Louis en Lille, y a des portes sculptées en l'an 1000 à l'eau forte.
Mille et une nuits. Orangé, luisant sous la pluie de l'été.
Orchidées, fraises, embaumées.
Cendres douces, braises, enchantées.
Clochard incendié. Gros clocher, high society.
Blanche fée. Port de minuit, U.S. Go home.
Go home.
Bovin ventru, SS, go home.
SS, go home.
Port de minuit, US, go home.
US, go home.
Rue Saint-Louis en Lille,
en plein dans le mille. Rue Saint-Louis en Lille,
en plein dans.
En plein dans le mille.
Le mille.
Rue Saint-Louis en Lille, les ondines filent, filent, filent aux vitrines.
Pull abominable, sac à main, fringue désirable, bijoux fin, triste queue de suceur de glace ou déserte rue de palace.
Quand l'hiver se plaint, il faut rire. Quand l'été revient, il faut fuir.
Rue Saint-Louis-en-Lille, au milieu de la ruche, pile au milieu
des hôtels parés, portails sous des quais astiqués pour l'amour.
Rue Saint-Louis-en-Lille, plébéienne, au cœur de la ville quasi naine,
aristocratique
et puffiou,
paradis antique, I love you.
Port de minuit, US,
go home. US, go home.
Bovin ventru, SS, go home.
SS, go home.
Port de minuit, US, go home. Rue Saint-Louis en Lille.
Rue Saint-Louis en Lille, en plein dans le mille.
Rue Saint-Louis en Lille.
Il y a 30 ans, hors du vent, du ventre de ma mère, en tremblant, en pleurant, j'ai ouvert mes paupières. Ils m'ont dit on te tient et tu seras toutou. Je sais depuis que chez les chiens on n'admet pas les loups. À 10 ans frémissant, frémissante et mystique, j'adorais librement, sans encens ni cantique. Ils m'ont dit à genoux impur tu as péché. Je sais depuis que debout j'ignore l'évêché. À 15 ans dans le vent doux d'un poème, je voulais tellement, tellement être Verlaine. Ils m'ont dit garnement tu gagneras des sous. Je sais depuis qu'un Rembrandt ben, ça en vaut beaucoup. À 20 ans à cheval sur mon cœur, j'ai voulu être amant et être amant de cœur. Elles m'ont dit tu viens et on sera gentille. Je sais depuis que j'aimerais bien qu'elles soient méchantes les filles. À présent sur le vent, le ventre de la terre, en tremblant, en chantant, je traque la lumière. Et si je crie mes chansons, si je dis des blasphèmes, c'est pour mieux non donnant, mieux gueuler je vous aime. Et si je crie mes chansons, si je dis des blasphèmes, c'est pour mieux non donnant, mieux gueuler je vous aime.
Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Thank you. l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et Urbi Comorbi, sans sponsor ni publicité. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Aimé Césaire. C'est quand même un drôle de travail, je ne sais pas s'il en a beaucoup besoin, mais ce n'est pas grave. On va remercier Monique aux manettes, hein. Sœur Monique, je n'espérais même pas sa venue, et puis elle a franchi tout ça, elle a bordi tout ça, c'était extraordinaire. La semaine prochaine, Monique sera encore là. On recevra Joël Guéraud, L'homme sans horizon. C'est publié chez Libertalia. C'est un livre sur l'utopie. Ça vous inspire l'utopie, vous ?
Oui, oui, tout à fait.
D'accord. C'est contradictoire avec le côté politique ou pas ?
Pas du tout.
Non, pour moi
pas
non
du
plus,
tout.
Hein.
Ça fait partie du rêve de choses à venir.
Voilà. Donc, on va parler d'Aimé Césaire. On avait rendez-vous il y a un petit bout, il y a au moins, je ne sais plus ce qui s'est passé, il y a trois semaines, un mois, comme ça. Et puis moi, on n'a pas fait l'émission, et ça m'a permis quelque chose. J'ai réagi, j'ai été réactif, Françoise, j'ai relu France Fanon. Magnifique, non ?
Oui, oui, tout à fait.
Hein, magnifique,
sûr,
hein.
Bien sûr.
J'avais oublié à quel point c'était fulgurant.
Oui, oui.
Même au niveau de l'écriture.
Oui, de l'écriture, oui. On sent d'ailleurs, il est influencé par Césaire, voilà. Si on peut dire. Il y a quelque chose d'une écriture césarienne. Mmh. Qu'on retrouve dans Fanon. Pas oublier que Césaire a été son professeur.
Alors ça, c'est très... Vous êtes sûr ou pas ?
Ah oui, oui,
de
c'est
ça.
sûr. Bah, il était son professeur au lycée Schœlcher, à Fort-de-France. Il en parle d'ailleurs. Et lui-même, Césaire en parle. Il a paru Fanon comme élève. Parce que Césaire, en fait, il a eu plusieurs générations d'intellectuels anticolonialistes de la Martinique, hein, qui sont passés dans sa classe.
Ce qui est très curieux, c'est que la Martinique, en Espagne, qui est né en 13, non c'est ça non,
en 11.
En 11, et l'autre, ils ont 12 ans de différence, a produit deux fulgurances.
Oui, oui, tout à
Fanon
fait.
Fanon et Césaire.
Oui, oui.
Magnifique.
Magnifique, oui. Oui, oui, oui non, non. Et puis, oui, non, la Martinique, ce qui est d'ailleurs un peu amusant, on en parlait une fois, c'est que de la Martinique, c'est des écrivains, enfin il y a surtout des écrivains, et la Guadeloupe, des écrivaines.
Ah, génial.
Simone Schwarzbart, Maryse Condé. Enfin, c'est assez. Enfin, on se disait ça, on se faisait la remarque.
Donc, j'ai redécouvert Fanon, un style fulgurance, etc. Et j'ai découvert effectivement l'influence de Césaire chez Fanon. Et pourtant, au niveau politique, et à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Parce que si Fanon, lui, a rejoint le FLN, magnifique, hein, le magnifique politiquement, Césaire a quand même voté en 58 les pleins pouvoirs à De Gaulle.
Il a voté, oui, en même temps, bon, il s'en expliquait après Césaire. Je pense qu'il faut le prendre, il faut admettre des contradictions en lui. Qu'il devient un responsable politique, avec tout ce que ça peut signifier aussi, de différent, qui n'est pas dans une situation révolutionnaire comme la situation algérienne. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, je veux dire d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. De se retrouver, il s'est retrouvé face à l'État français, mais d'une manière différente que dans la situation algérienne. L'État français, dans ce qu'on appelle les territoires, les départements d'outre-mer, n'a pas du tout été tendre. On n'a pas du tout. On a tellement l'idée de la guerre en Algérie qu'on oublie ce qui s'est passé en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, de répression féroce, mais féroce.
Madagascar aussi, hein, ils sont
Madagascar 47, plus, hein. Alors là, on jetait, l'armée française jetait les insurgés de l'avion, des avions tout vivants, avaient exigé ensuite des scènes de soumission où les Malgaches devaient arriver à genoux devant l'officier français. On a totalement oublié ça. Mais même pour la Martinique, Guyane, Guadeloupe, l'Oprégnon, ça se poursuit dans les années 70 jusqu'aux années 80. Mmh. Et donc, comme on a, en France, on a tendance à penser qu'avec l'indépendance de l'Algérie, quelque chose du colonialisme s'arrête, on oublie qu'il se poursuit et qu'il continue à se poursuivre dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Et c'est vrai que c'est Martinique a connu de la répression, comme d'ailleurs les autres territoires, mais fort, c'est-à-dire que la moindre grève était sévèrement réprimée, les gens étaient menacés. Un des grands amis, le frère de... L'un des grands amis de Césaire a été assassiné. Il y avait de la fraude électorale, il y avait vraiment les milices armées des grands propriétaires qui semaient la terreur. Donc il a eu affaire à ça et il ne faut pas non plus oublier ça. Il n'a pas été, il n'était pas dans un endroit passif.
Raphaël Confiant, je ne sais pas si vous connaissez son livre sur Césaire, c'est très brillant, mais on a l'impression que c'est une réaction un brin freudienne contre papa, tellement il ne lui pardonne rien.
Oui, il ne lui pardonne rien, c'est un peu à charge.
Voilà.
Je pense que je comprends, je peux le comprendre, mais si vous voulez, Césaire, il arrive dans un Fort-de-France rempli de bidonvilles, il essaye de résoudre déjà les questions, qu'il y ait de l'eau courante, qu'il y ait de l'électricité.
En 48, c'est ça,
oui.
C'est ça.
Qu'il y ait des routes pavées, qu'il y ait des maisons solides pour que ça ne soit pas emporté par les cyclones. Des choses, évidemment, qui ne sont pas, qu'on peut considérer comme banales par rapport à des luttes héroïques, mais elles font aussi partie de ce que ça veut dire de lutter contre le colonialisme. Parce que le colonialisme, derrière lui, il avait laissé, il laisse encore rien. Il y a très peu d'instituteurs, il n'y a pratiquement pas de médecins martiniquais. C'est exceptionnel que des Noirs martiniquais aient eu accès à l'éducation, vraiment. Donc c'est ça aussi le colonialisme. Il a affaire, Césaire, quand il arrive et qu'il devient maire de Fort-de-France et député de la Martinique, à un pays, il le dit quand même quand il présente la loi de départementalisation, que 300 ans de colonisation française n'ont rien accompli. Tout à fait contraire à la doxa qui dit que la colonisation a fait des routes, des ponts et des hôpitaux.
Mais ce qui est très drôle par rapport au livre de Raphaël Confiant, il passe absolument rien, mais absolument pas. Il lui reproche d'avoir un costume, il lui reproche de ne pas savoir danser, il lui reproche... La seule chose, vous allez voir où je veux revenir, et après on va plonger dans Césaire, il lui dit à la fin, alors de façon vacharde, qu'il est un peu dépassé. Tu comprends, le problème du colonialisme, c'est plus le même que maintenant. Il lui dit ça. On n'est plus dans le même manichéisme. Voilà.
Oui, sans doute, on pourrait dire ça. C'est vrai que quand Confiant écrit, d'une part, il y a eu une énorme répression et l'État français a aussi offert la consommation aux sociétés des Outre-mer. D'énormes centres commerciaux se construisent, on offre la voiture, il y a une classe, une petite bourgeoisie, qui se crée, noire, et à qui on va offrir la consommation. Et une forme d'intégration. Quelques miettes que l'État français jette. Et c'est vrai que du coup, ça change des choses, mais c'est quand même pas, c'est pas la responsabilité de Césaire. C'est comment l'État français fait face à ce qui se passe. L'État français, à un moment, ne peut pas renoncer à toutes ses terres, ne va pas renoncer. Ce qui va se passer, c'est que là, il va réprimer énormément, et en même temps, l'État ne peut pas vivre qu'à coups de bâton. Il faut aussi qu'il offre un peu quelques carottes, si je puis dire. Et donc c'est ça qui va se passer aussi dans les années 60-70, à la fois d'énormes répressions et puis d'assimilation, d'offrir quelques miettes de l'assimilation. Et aussi de faire une énorme propagande en disant vous voulez que ça soit comme à Cuba ou vous voulez que ça soit comme à Haïti. Et donc de faire peur à une partie de la population.